Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un petit mot avant de commencer ce podcast un peu particulier puisqu'il a été enregistré avec 8 participants à distance et via Mumble. Alors, le gros intérêt, c'est qu'on a tous pu faire notre débrief d'Essen et malheureusement, il y a eu un petit problème avec les pistes Mumble qui ont été un petit peu désynchronisées. Alors, je m'en excuse, je n'ai pas systématiquement coupé la parole à tout le monde, mais un petit problème technique et ma réponse vient avant la fin de la phrase de la personne à qui je réponds. Voilà, alors, désolé, il nous aurait fallu beaucoup de temps pour resynchroniser toutes les pistes. Ça a été un petit exploit technique auquel on ne voulait pas se soumettre. Voilà. J'espère que vous prendrez néanmoins plaisir à nous écouter.
Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes le 22 octobre 2015 et vous écoutez le 70e épisode de Proxy Jeux. Je suis Cyrus et ce soir, je ne serai pas accompagné d'un seul invité, mais de 7 invités. Et non des moindres, car ce sont 7 chroniqueurs de Proxy Jeux. Et voici donc celui dont le pseudo ne présage pas de la largeur des routes qui mènent jusque chez lui, Birout. Bonsoir Birout. Celle dont l'étrange passion pour les rats n'a d'égal que sa passion pour les vieilleries, j'ai nommé Dany. Bonsoir Dany.
Salut à tous. Je précise que je ne suis quand même pas une vieillerie.
Celui qui, depuis 5 ans, est la caution humoristique de Proxy Jeux, Dédé Schutz. Bonsoir Dédé.
Bonsoir, bonsoir à tous. Salut France, la francophonie et le Japon aussi.
Oui, car ce soir, nous accueillons également le plus décalé de tous les chroniqueurs. Et quand je parle de décalage, je parle évidemment de décalage horaire. Bonsoir Iso, ou plutôt bonjour.
Salut, il est un peu 4h du matin, alors je dirais pas bonsoir. Hein.
Nous avons également ce soir celui qui pourrait se faire appeler le géant vert des jeux de société, mais qui a préféré brouiller les pistes avec son pseudo, Merlin Duménil. Bonsoir Merlin.
Bonsoir, c'est Green, super Green ce soir.
Et enfin, celui que nous devons désormais tous appeler Monsieur le Président. Bonsoir Olivier.
Et salut les joueuses et salut les joueurs. Salut Jérémy. Je suis déstabilisé. Et salut Cyrus.
Bonsoir Olivier. Et nous allons vous parler de jeux de société. Alors tout d'abord, merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com.
Et un grand merci à nos Patreons de nous soutenir ce podcast, à Antoine Stratt, Père Castor, Baptiste, dont on ne doit pas dire le nom, Mister Neil, Flavien Moubouchet, Alexé, Hervé Migo, Lacaré, Deckmoon, Le Durny, Cyril Douche, Merlin Duménil, ah tiens, il est là lui aussi, Alex Godlex, Vincent Vidéo, Vincent, Guillaume Aubert, Alès, Ludy Boquet, Boob, Bab, Gaëtan Perrin, El Pouillou, Un Toulousain, Yannick Deplette, Siol, Loïc Lacombe, Jean, Jamin, Johan Bono, Peggy Chasney, Arnaud Van Muswinkel.
Oui, c'est pour ça qu'on sous-traite maintenant.
Nicolas Lefebvre, Fendoel, Vincent, Olivier Darchy, Geoffroy, et un merci à Stéphane, alias Nounet, pour son don PayPal.
Oui, parce que vous pouvez vous inscrire sur Patreon, vous pouvez nous donner des sous régulièrement, et puis comme Nounet, vous pouvez nous faire des dons ponctuels, ce qu'il a fait, il nous a donné 20 euros, et merci à lui. On parle des commentaires sur le site, peut-être. Merci à tous ceux qui ont dit du bien, tout le bien qu'ils pensaient du 1969 avec Fred Henry. Merci encore à lui d'être venu. On a passé de longues heures vraiment très 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 intéressantes. Alors on a eu un retour un peu triste, c'est que Fred, il a la mauvaise habitude de ne pas rester en place. Donc il s'est un peu éloigné du micro, il est revenu, et même en faisant de la compression, ça s'entend et j'en suis désolé. On parlait un petit peu de la nouvelle version, parce que vous m'avez encore entendu beaucoup. Peut-être David ?
La nouvelle version, oui, on peut en parler. Ce sera un format bimensuel, donc avec une partie invité et une partie chronique. Donc, avec les chroniques de tous nos...
C'est qui les invités aujourd'hui?
C'est qui? Les invités, c'est nous.
Bah, je l'ai dit, ah, t'as pas suivi.
Bah non, je t'écoute pas. Attends, c'est pas parce que Rémi
vraiment
est pas là que je vais commencer à t'écouter toi, quoi. Je viens, c'est...
Bonjour l'ambiance.
Bon, et de quoi on parle aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, on va revenir sur la grande messe des joueurs européens, c'est-à-dire Essen. Eh oui, parce que pendant 4 jours, toute l'équipe de Proxy Jeux, du 8 au 11 octobre, eh bien, nous avons arpenté les 4 halls et la Galeria du Metz. Nous avons fendu la foule des 160 000 personnes venues du monde entier, parcouru les 910 stands du salon. Nous avons plus ou moins su résister aux extravagances gastronomiques allemandes, prononcé le mot D dans 20 langues différentes et le mot Meeple dans une seule en fait. Ingurgité plus de 20 règles de jeu par jour, survécu un chabou-chabou épicé niveau 10. Merci Alexis. Bref, tout ça pour vous ramener les commentaires que nous allons vous faire ce soir de ce magnifique salon. Juste pour revenir effectivement sur... vous aurez sans doute constaté qu'on ne vous a pas proposé de petites chroniques tous les soirs. Hein. Cette année, on a décidé de faire l'impasse sur ce sujet. On avait prévu de faire des périscopes en fait sur le salon pour vous amener quand même de l'info en live. Malheureusement, on a eu des petits soucis de réseau. Je sais que typiquement, j'ai essayé de faire un petit périscope sur Clask, un petit jeu de type Waikik. Impossible, j'ai jamais réussi à me connecter, à avoir le réseau suffisant, quoi. Envoyer des tweets, ça passait, mais le reste, impossible.
Et alors, c'est bizarre parce que chez Ludovox, eux, ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça du live, qu'ils allaient retransmettre leurs interviews. Et ça a dû marcher, donc je sais pas comment ils faisaient, s'il y avait un opérateur particulier ou quoi, mais eux, ils ont réussi visiblement.
Ils sont pistonnés, sûrement.
C'est ça.
Ouais, ça doit être ça. Oh, mais je pense qu'ils avaient pris, ils avaient pris leurs précautions, quelque chose d'un peu plus pro peut-être. Voilà. Donc pour ce soir, on vous propose de démarrer sur une petite impression du salon en général. Alors d'abord des choses qui changent pas. Hein. Essen, c'est toujours un énorme salon et surtout un énorme supermarché. Hein. C'est vraiment typique de ce salon allemand, avec des tonnes de jeux d'occasion. Vous pouvez retrouver toujours des jeux qui ont plus de 20 ans. Je pense que c'est Dani qui a dû se régaler.
Ouais, j'ai ramené 8 Ravensburger à 5 € des années 80. J'étais très heureuse.
Et puis toujours d'impressionnants des stockages, des jeux qui parfois sont pas très vieux.
Oui, surtout la Game History.
Et effectivement, la Game History qui était bradée, qu'on a vu brader en fait sur typiquement sur Ludic Bazar en France et Ludic Bazar Ludib. Et en fait, Ludib avait sa boutique à Essen et donc on a retrouvé les jeux History bradés, mais pas seulement chez Ludib d'ailleurs. On les retrouvait également sur des stands de vente allemands. On voyait des packs. Des packs Mirmes avec Spirium qui étaient vendus 19 €. Alors avec il y a eu une espèce de petite confusion parce que j'ai demandé le prix, je voulais acheter Mirmes tout seul en fait, et j'ai jamais vraiment su si c'était 15 ou 50 avec ma capacité.
C'était 50.
Ouais, toi t'as compris 50, mais il y a d'autres personnes qui m'ont confirmé que c'était 15 après, donc je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.
C'était 15, mais il voulait pas te le vendre, donc 50.
Ouais, c'est ça. Non, mais le mec il nous a dit non, mais l'idée c'est de vendre l'opaque, quoi. Donc on s'est dit, ouais, si vraiment il veut nous vendre 50, effectivement.
Bah, dis donc, autour de moi il y avait que des gens qui voulaient des Mirmes et personne a voulu reprendre mon. J'ai presque donné de l'argent pour que les gens reprennent mon Prosperity, mais personne n'en voulait, quoi.
Et The Britney voulait pas trop s'encombrer avec pour rentrer au shopping.
Ouais, même avec tes 50 € là, c'était pas possible.
Ouais, moi non plus j'en voulais pas, je rentrais avec. Donc j'ai. Alors, petit message personnel, j'ai un Prosperity à vendre. Vous le retrouverez bientôt sur Ocaso avec une bonne dizaine d'autres.
Oui, c'était Prosperity, je crois que j'ai dit Spirium tout à l'heure.
Il y en avait aussi.
Oui, non, parce que c'était un vrai bon jeu avec, c'était pas un bon jeu.
Oh.
Ouais, Spirium, j'aurais pris.
Ça commence.
C'était la même logique que Queen Games, un bon jeu, un mauvais jeu en pack.
C'est ça.
C'est pour ça qu'on
mais cela dit, Hesperium était vendu 9 euros, je crois. Hein.
Oui, c'était une bonne affaire.
Voilà, donc oui, effectivement, du déstockage. Et alors, moi, l'impression que j'ai toujours quand je vais à Essen, enfin, c'était que la troisième fois, hein, j'aime bien rajouter, c'est vraiment ce Essen à deux vitesses. On a les familles allemandes qui viennent se poser dans les stands Amigo, les stands Ravensburger, enfin, ces éditeurs traditionnels allemands, et qui viennent se poser là pendant 2 heures. Qui s'assoit à une table, vraiment en fait une philosophie différente en fait, où sur ces stands-là, vous assignez une table et ensuite vous allez chercher des jeux. Et donc, quand vous avez une table, vous la lâchez pas. Et vous venez, voilà, petit français, vous voulez essayer un jeu, ben vous voyez le jeu est libre, mais pas la table en fait, vous n'avez pas la table de libre. C'est vraiment un concept différent. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, c'est assez typique, j'ai l'impression, d'Essen aussi.
Chez Ravensburger, ça jouait même par terre. Quand les jeux étaient dispo, les gens s'installaient par terre pour jouer. C'était marrant.
Non, ça s'habitue à ça.
S'il n'y a pas de table, il faut jouer par terre, c'est tout.
Et donc, pas mal de... Alors, en termes d'évolution du salon, donc cette année, on a un quatrième hall qui était ouvert. Alors, c'était déjà le cas l'année dernière. Il y avait le hall 4 qui était ouvert, mais il était vraiment désert. Avec quelques éditeurs, on avait un éditeur français qui, le pauvre, était perdu au fond de ce hall 4. Cette année, on avait non pas le hall 4, mais le hall 7 qui était ouvert à des éditeurs et qui était quasi plein. Donc une vraie croissance du salon, une croissance continue avec ce quatrième hall ouvert, 910 exposants, je crois que l'année dernière on était dans les 800 et quelques, c'était 41 pays représentés, vraiment une vraie dimension mondiale. Et cette année, donc certains ont noté une meilleure circulation, moi je m'en suis pas bien rendu compte, je suppose que j'avais dû prendre un peu en largeur, mais apparemment les allées ont été élargies d'une quarantaine de centimètres, tu disais Olivier.
Oh, c'est Merlin qui disait ça, non?
C'est Merlin.
Oui, je confirme pour en avoir discuté avec des personnes sur le salon, il y a bien eu un grand désallée.
Et tant qu'on est dans les nombres, sur le chat, on nous demande combien de jeux on a ramené chacun.
Ah bah ça, on en parlera dans la deuxième type, peut-être. On va parler des jeux plus spécialement, donc on pourra en parler. Bah,
juste le nombre.
Le nombre, il va falloir rester. C'est un nombre, je veux dire. C'est...
Une bonne centaine, hein, pour moi, sans problème.
Bah, moi, je les ai tous pris, voilà. 700.
Ok, on reviendra.
Et avec combien de prosperity, Olivier?
Ah bah, en fait, je veux faire un monopole. Je veux que ce jeu ait un prix. Donc, je les ai tous achetés. Comme ça, il n'y en a plus. Comme ça, je peux les vendre et je fais monter le prix. Tu vois, c'est... Voilà.
Ouais.
C'est pour ça que je... Voilà. Non, qu'un seul prosperity.
Non, mais la loi de l'offre et la demande, et ça implique qu'il y ait aussi de la demande.
Tout à fait. Bah écoute, je débute en commerce, hein, en économie, c'est pas mon fort. Donc, ouais.
Olivier, tu voulais nous parler un petit peu
ouais,
du hall 7.
Donc tu as dit l'année dernière un hall 4 qui était un demi-hall et pas un hall complet, qui était assez froid, avec des perles. Donc il y avait Blue Cocker et son jeu. Il y avait aussi...
Castle Crush.
Il y avait aussi Castle Crush, tout à fait, le coréen.
Non, Medieval Academy.
Cette année, c'était un peu différent. J'ai trouvé que le hall était pas intéressant. C'est-à-dire qu'il était toujours, c'était toujours un cul-de-sac. Arrivé dans la galeria, il fallait qu'on rentre dans ce hall et il y avait un hall certes grand, mais qui était, il fallait vraiment vouloir y aller pour y aller. Sauf que il était plus grand et donc il y avait plus de raisons d'y aller. Et surtout, le hall 7, pour moi, outre donc les Kickstarter, notamment Serious Pulp et Seven's Continent, il y avait aussi Blue Cocker qui présentait. Je vais y arriver. Merci.
Casting.
Et il y avait en fait ce que j'appelais moi l'allée française. Il y avait Blue Cocker avec Casting, il y avait Dino Twist de Banquise, et puis à côté il y avait Hopla. Les jeux au plat avec toutes leurs petites boîtes et un très beau stand. Donc il y avait cette allée-là qui était intéressante. Des petits éditeurs comme on en trouvait il y a quelques années, tant de Istari au Repose Prod. Alors quand je dis quelques années, je fais mon vieux con. Oui, il y avait vraiment le hall 9, je crois, où on descendait, on retrouvait cette ambiance-là. Et pour moi, ça fait une grosse différence parce qu'on a ce monstre, entre guillemets, Asmodée avec Tentable et puis une identité qu'on a perdue. Et donc, quelque chose d'un peu plus intéressant que le hall 4 et surtout cette allée française. Et juste une petite anecdote sur un autre éditeur français. On m'a raconté que Superlude avait eu des problèmes avec son nom. Iso, tu voulais en parler, je crois, parce que Antoine, t'en as
parlé. Ouais, parce que je suis allé plusieurs fois sur le stand de Superlude là. Et Antoine, le samedi, je pense, samedi après-midi, on est allé sur le stand pour essayer l'UTS. Et au moment où on s'est installé à la table avec Eric, on a vu Antoine débarquer et demander aux démonstrateurs de retourner leur t-shirt. Alors apparemment, Superlude en allemand, alors je vais essayer de prononcer en allemand, mais ça ferait Superlude, et ça voudrait dire le Super Mac.
Macro, ouais.
Qui travaille ici le soir. Ouais, et ouais, c'est ça, Proxénète. Et du coup, comme il essaye de vendre des jeux pour les enfants aussi,
si ça peu, posait un petit problème.
Oui, tant que les enfants savent très bien, ça va, mais donc du coup il s'est retrouvé un peu gêné le samedi après-midi avec plein de familles qui passaient sur le stand et puis les gens qui apparemment ont été un peu choqués par le nom de l'éditeur, et il a demandé à ses démonstrateurs de retourner leur t-shirt, de le mettre à l'envers, quoi. Mais il était vraiment un peu désemparé devant la situation, et bon, il m'a dit quand même que c'était pas la première fois qu'on lui faisait la remarque. Mais il ne pensait pas que les gens feraient attention à ça aussi, de façon aussi importante, quoi.
Oui, c'est effectivement. J'ai quand même essayé de chercher du coup sur Internet, mais j'ai pas trouvé de traduction.
Fais une recherche Google Images, petit coquin.
Google Images. Ah, j'aurais peut-être dû tenter la recherche.
Je sais pas si c'est Urban Dictionary en allemand.
Bonne question.
Je vais pas chercher.
Et puis, il y avait un fait marquant aussi, c'était le Hall 4, on en parlait tout de suite. Moi, je l'ai vu vide, en fait, complètement vide, et rien qu'avec des tables. Puisqu'il y avait le tournoi de Catan, 1040 joueurs, un truc de dingue. Et puis, puisqu'on parle d'allemand, rien écrit en français. C'est-à-dire, aucun affichage en anglais en disant c'est le tournoi de Catan, venez vous inscrire. C'était que des flyers en allemand. C'était incroyable.
C'était un tournoi de Catan pour les Allemands.
C'était pas aussi pour un record du Guinness Book.
Ah, c'est possible. C'est possible.
Si, apparemment, ouais. Apparemment, ils ont battu le record de la précédente, du précédent tournoi Catan, ouais, effectivement, avec 1040 joueurs. Alors, en tout cas, c'était assez impressionnant, effectivement, de voir ces enfilades de tables à n'en plus finir dans un hall qui est pas petit, quoi. Là, c'était le hall 4, qui était plein uniquement à moitié d'éditeurs l'année dernière, et là, il était plein de tables, quoi.
Et du côté des gros éditeurs, tu parlais des Queen Games. Moi, ce qui m'a choqué un peu, c'est que par rapport aux années précédentes, c'était la folie du discount. Beaucoup de lots, les jeux intéressants n'étaient pas bradés. D'ailleurs, on avait Kingdom Builders à 15 euros. Et puis, il y avait des discounts, mais toutes les heures ou toutes les deux heures où on avait un jeu qui était à moins 30, moins 40, moins 50, moins 60%. Et même, ils ont une gamme enfant qui a été créée. Et même ces jeux qui sont des jeux neufs étaient eux aussi bradés. C'était juste incroyable. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'espace thématisé de Asmodée. Il y avait, j'ai pris des photos de petits boosts Mysterium, bleu avec des toiles d'araignée. Enfin, c'est un truc. Malheureusement, j'ai pas joué à Mysterium là-bas. Ça devait être vraiment très intéressant. Mafia de Cuba, Loup-garou de Tiercelieu, Time Stories avec une sorte d'aquarium. C'était rigolo. On passait devant. Il y avait trois tables. C'était un espace clos. Et on les voyait jouer.
Ah, c'était super bien fait, ça avait vraiment un petit côté futuriste, très design en plus. Ils avaient des tables, enfin les chaises, j'ai noté, qui étaient pas des chaises qu'on pouvait voir sur le reste du salon, c'est des chaises qu'ils ont dû ramener eux-mêmes avec un design assez particulier, qui fait vraiment futuriste, quoi. Ils avaient bien mis le paquet là-dessus.
Philo et Zedman, donc, qui sont sur le même stand, plus qu'un seul stand, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mon voisin Le Monde, je l'ai acheté en français tout de suite à la sortie, donc il y a des co-éditions, enfin, ils avaient Pandemy Legacy. Avec bon, forcément un stand, un gros stand à Yellow avec leur tour là, leur tour jaune qui se voit. C'est un peu, je sais pas jusqu'où ils iront ou jusqu'où ils peuvent aller, mais
un phare.
Ouais, c'était un phare. C'est un phare et l'autre côté c'était un mur, quoi. C'est-à-dire que d'un côté tu donnes sur leur table. Il y en avait encore plus que l'année dernière. Et de l'autre côté, ça devait être l'horreur. Le pauvre petit éditeur qui était derrière et qui avait ce mur jaune devant lui, ça devait pas être agréable. Et puis Matago, pour lequel on a vu vraiment une évolution, vraiment une différence d'une année sur l'autre, avec un très beau stand, notamment avec un œil de tyrannosaure, sympa un peu à la Jurassic. Et ils sont vraiment donné du mal et ça a vraiment, vraiment, vraiment payé, je pense.
C'était pas un œil de Raptor, plutôt.
Ah, pardon, excuse-moi, je... un peu des lacunes en dinosaure.
Bonne remarque. Bravo, Dé. Ouais, non, effectivement, il y a un gros effort de fait sur les éléments de décoration, en fait. Une assez grosse marche montée par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression.
Et puis, donc moi, ce qu'on m'a dit par rapport à la Gen Con, des dédicaces toujours, encore, Nayad, Catala qui a dédicacé, qui a signé le dos du téléphone d'Alexis pour le Tong, parce qu'en fait, Alexis joue à Tong, et donc forcément, il l'avait sur son téléphone, et plutôt que lui faire dédicacer quelque chose, il lui a fait dédicacer son téléphone. Alors, est-ce que c'est une spécificité française? Je pense. Je pense qu'il y a, il y a une fibre. On met en avant les auteurs, on met en avant les illustrateurs. Et puis c'est vraiment sympa de pouvoir les voir. Et ça les rend encore plus accessibles, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a effectivement une spécificité française à l'origine. Mais on a vu cette année Pegasus s'engouffrer dans la brèche et ils avaient un kiosque à dédicace. Ils avaient avec un planning de dédicace et typiquement il y a Senji Kanai qui est venu dédicacer Love Letter et autres jeux de son cru, quoi.
David ne regarde pas le conducteur.
Si, bien sûr.
David, tu nous parles de Star Wars? Parce que Star Wars, c'était aussi le... On est l'année Star Wars, on est en 2015.
T'as la musique, bien sûr.
C'est aussi l'année Retour
dans le futur. Oui, c'était hier, c'est Asbin Retour dans le futur.
C'était juste hier. C'était juste hier. Oui, c'est l'année Star Wars avec du Carcassonne, du Ubongo, je crois que j'ai vu en Star Wars.
Timeline,
bien sûr.
Et puis le Chouiloupi. Non, j'ai dit beaucoup de mal. Enfin, non, j'ai pas dit beaucoup de mal. J'ai dit juste.
Ah oui, le looping.
Effectivement.
Ouais, looping.
Le looping, oui, avec le Faucon Millennium.
Et ça, c'est celui-là dont on parle avec le Chewbacca dessus. Celui où il y a que trois joueurs.
Ouais, joueurs à trois.
Ils ont fumé, en fait.
Mais faut demander aux d'ailleurs. Ils vont te préparer
avec une imprimante laser. Tu peux jouer à Looping Louis à 6. C'est cool. Pas imprimante laser.
Je pense que la licence était trop chère.
Mais bref.
La licence 4 joueurs devait être beaucoup trop chère pour...
Ils n'avaient plus le budget.
Pour Disney.
Et non, bien sûr. Oui,
ouais,
Est-ce que tu peux pas récupérer juste le bras et finalement jouer avec ton Looping Louis classique avec 4 joueurs et
bah si,
hérétique.
Mais le bras c'est à 35 euros aussi.
Hérétique. Sinon, t'achètes une vieille figurine qui est là.
C'est une bonne idée aussi. Ouais, parce qu'en plus c'était 35 euros. Mais...
Ouais, mais le comilium,
c'est clair.
Plus de gueule. Hein.
Donc, toujours plus de. Outre cette licence, toujours plus de jeux. Alors, je vois noter 1000 nouveautés. Bon. On parlait de 700-800 nouveautés sorties en comptant les doublons et tout ça. Il y a un accroissement, forcément. Et puis, on a vu aussi, il y a un indicateur qui trompe pas, on en discutait en entrant dans l'avion, parce que forcément, le gratin, il est lyonnais, hein, donc les gens sont rentrés à Lyon. Je veux pas... J'ai en parlé avec Antoine Boza, qui disait qu'il y avait 2400 boîtes de duel qui étaient parties en 4 jours. Et c'est là qu'on voit, en fait, et au final, 3400 exemplaires vendus. Alors je sais pas qui c'est qui a rajouté cette information là, et je sais pas, il faudrait juste mais il y en a énormément qui ont été vendus, et juste le changement des, c'est à dire que Ghost Stories, il y en avait 777, c'est les petites illustrations qu'ils avaient mis en plus, il y en avait eu 777 de signés, donc c'est le chiffre qui a été retenu. C'est 20 noms d'heures, c'est un tirage à 800, et là on parle d'un jeu à deux de 2400 pièces. Donc il y a vraiment, on parle de l'augmentation le volume de vente, et puis le jeu se sait qu'il vient de mainstream. Pour qu'un jeu à deux se vende à tant d'exemplaires que ça, c'est que, un, le jeu de société a le vent en poupe, et que, deux, je dis la French touch, mais c'est la francophonie touch a aussi le vent dans le dos.
Ouais, parce que si on compare les chiffres de vente de Seven Wonders à 800, Célestia...
Ouais, c'est bien. Mais ils sont pas ratés, Célestia. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont fait un super travail. Je vais le rajouter.
Tu as Pearl Games aussi vendu plus de 1200 auberges rouges, ce qui est pas mal, parce que finalement, c'est quand même encore un petit éditeur, même s'ils sont distribués par
Asmodée. C'est un studio à coder, donc c'est plus un petit éditeur.
Oui, mais ils n'avaient pas d'espace que ça pour faire tester le jeu non plus, donc ça reste pas mal, quoi.
Je crois qu'il était testable à différents endroits, quand même. Il me semble qu'il était, il était sur des stands Asmodée et sur le stand Pearl Game, il me semble. Mais effectivement, ça n'empêche que... c'est aussi un éditeur qui a pris sa place à Essen, Pearl Game. Je pense qu'il y a beaucoup d'Allemands qui attendent le jeu Pearl Game. Depuis 3, en fait, ils sont attendus.
Moi, le Berger Rouge, je l'ai pris en blind. Hein. C'était même pire que ça, quoi. C'était pas attendu. Quiproquo Battle, j'ai noté ça, c'est une petite histoire, et c'est la petite histoire du salon pour moi qui est pas une histoire très très drôle, en fait. Ça aussi, c'est un peu représentatif de ce qui se passe en ce moment. Je vous dirai exactement tout à l'heure le nom du jeu. On est arrivé sur un stand où on a spécifiquement testé un jeu de pirates, parce que j'aime bien les jeux de pirates, et surtout c'est un jeu, la boîte était en fer, je me suis dit ça va être cool. Les factions, on s'arrête sur le... Donc on s'assoit à table, le gars commence à nous expliquer le jeu, prenez vos dés, sans vos bateaux, et vous les lancez dans la boîte. Et là tu regardes le gars, tu lui fais mais... vous connaissez Rattle Battle? Et grosse déception, on dit... Oui, Rattle Battle, c'est un clone simplifié de mon jeu. Donc, il t'explique. Alors, dans un anglais approximatif, je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de creuser un peu plus cette histoire. Il semblerait qu'il y a quelques années, Ignacy Trevicek et cette personne-là se soient retrouvés sur le même salon, et que Ignacy ait un peu récupéré l'idée. Comment, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a eu des accords entre l'auteur ou pas, je ne sais pas. N'empêche que on a cet Ukrainien qui a fait Die Piraten der Sieben Weltmeer. Donc les pirates des sept mers. A priori c'est les auteurs de Mysterium. Ces gens-là, en fait, ils étaient dans un hall tout seuls, ils avaient leur petite boîte en fer, et puis ils en ont vendu je sais pas combien, mais je pense beaucoup moins que ce qu'a pu vendre Ignacy. Et Ignacy, il a fait un jeu qui, à mon sens, est plus abouti, plus sympa au niveau édition. Mais ce qui est vraiment gênant dans tout ça, c'est que au départ, la confiance qu'il y avait dans les auteurs à pouvoir porter leur montrer leur jeu et à pas avoir de problème parce que justement ils montraient leur jeu. On n'est plus au départ on se disait il faut faire des enveloppes cello, il faut protéger les jeux. Après il y a eu cette philosophie de dire non je le montre donc je le protège. Et ben on est peut-être en train de revenir un peu dessus. Surtout que ce monsieur de Portal c'est pas la première, il n'en est pas à son coup d'essai. Donc moi c'est quelque chose qui m'a un peu troublé, donc c'est un peu le point noir de cette SN là. Quoique Rattle Battle c'est un super bon jeu et c'est très très alors c'est un jeu de dés, il le dit lui-même dans les règles, attention hein, c'est, il y a beaucoup de hasard, beaucoup de si ça marche pas ça marche pas, mais ça mérite qu'on s'y arrête si on aime les jeux assez légers où on veut vivre une aventure. Il a fait des scénarios, c'est très très bien. Mais cette histoire-là, elle est pas glop.
Ouais, c'est vraiment dommage. Il y avait, en plus, sur l'édition des Ukrainiens, là, il y avait des choses intéressantes. Je crois que Merlin a acheté le jeu et c'était présenté dans une boîte en métal où tu peux utiliser aussi le couvercle et tout. Enfin, ça m'avait l'air assez bien pensé. J'ai pas pu essayer le jeu,
Tu utilises aussi la boîte. Bien foutu, dans la Battle, c'est tu lances tes dés dans la boîte. Bon, ils sont pas en fer, mais elle est un peu plus profonde.
Ouais. Ouais, comme quoi,
mais il est allé jusqu'au bout, il est plus loin, je pense que.
Alors, j'ai joué aux deux jeux, hein, au jeu ukrainien et puis au jeu polonais. Bon, l'affiliation est très nette, le système est comparable. Dans un cas, on a un jeu un peu plus tactique, le jeu des Ukrainiens, et effectivement sans doute moins abouti, moins fini. Côté Portal, il y a l'aspect fun qui a été rajouté. Que ça soit au niveau des mécaniques complémentaires, au niveau du port ou au niveau des même du thème, des dessins, des illustrations, on est beaucoup plus fun que le jeu ukrainien qui se veut un peu plus sérieux et le jeu Portal est plus abouti, c'est clair.
Donc en fait, Ignacy Trevicek fait vraiment un travail d'éditeur, sauf que il enlève l'auteur et il se met comme auteur à la place. C'est pas mal.
Bon, on va il faut mettre des bémols quand même. Après. Il y a eu un truc parce que enfin de toute façon entre la filiation et puis le fait qu'on dise il a copié mon jeu, il y a eu un truc. Enfin moi j'ai pas amené enquête, tu vois, je peux juste te dire qu'il y a un truc qui va pas, mais bon, ils sont peut-être arrangés, mais j'ai pas l'impression quoi.
Ah, tu veux dire qu'il y a pas de.
On a eu 15 ans de cloche.
Il n'y a pas eu la question des droits, ils n'ont pas. Ils ont
ça serait bizarre, c'est-à-dire que donner les droits et après, en plus, sortir ton jeu, ça va pas, quoi, tu vois, c'est incohérent.
C'est assez louche.
Ouais, voilà. Ça, c'est une question de territoire ou si, genre, ouais, ça, il y aurait des droits sur la Pologne ou.
Enfin, bon, bref, c'est pas.
Ça n'a pas été très le cas. Très
C'est juste moi, je m'inquiète de ça, parce que je me dis que il y avait quand même un status quo, il y avait quand même quelque chose d'assez sain, de dire j'ai une idée, je peux la montrer et si je la montre, elle sera protégée. Et là, tu te dis, on va revenir en arrière, on va dire ah ouais, j'ai une bonne idée, mais je suis pas sûr hein, parce que j'ai pas envie que Ignacy me la pique. Faut juste pas lui montrer.
Moi, j'en ai pas parlé ni avec les Ukrainiens ni avec Ignacy. Par contre, j'avais entendu il y a quelques mois, avant que les jeux ne sortent, que c'était la même mécanique de base et que c'était d'un commun accord qu'ils exploitaient la mécanique. Alors, je l'ai vu passer sur Twitter ou sur un site, je ne sais plus. Mais voilà ce que j'avais entendu à l'époque. J'ai pas creusé non plus plus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des rapports, puisque c'est eux qui ont édité Mysterium en version ukrainienne, qui a ensuite été reprise par Portal en version polonaise, puis anglaise. Donc il y a quand même eu des rapports entre les deux en termes d'édition. Maintenant, je trouve la vérité.
Entre les deux, sûrement. Ailleurs, comme dirait Scully.
Sans doute. Quelqu'un
moi,
voulait nous
encore,
parler
moi,
des jeux de Drive Maguire.
J'étais très, très très déçu, j'en ai essayé deux. Alors il y a Der Unendliche Fluss, qui est la rivière infernale, qui nous invite à bouger des petits personnages en déplaçant le plateau avec des petites billes dessous. Et en fait, j'étais très déçu parce que à part ça, c'est une mécanique qui marche bien parce qu'on déplace des petits personnages dans une rivière, il n'y a rien. Rien, c'est triste. Alors on a joué qu'à deux, je pense que même, et c'est un jeu pour 6 ans et plus, mais je pense qu'il y a tellement mieux, à la bonne époque de l'escalier hanté, à la bonne époque de la nuit des magiciens, il faisait vraiment des choses originales et intéressantes. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils ont perdu la flamme, et la flamme c'est les trois lapins dans le soleil couchant, et je sais pas si ils le retrouveront. Le deuxième jeu c'est le mystérieux dragon, la cave, non, la... je suis en train de lire une traduction automatique, c'est le Die Geheimnisvolle Drachenhöhle, c'est la caverne du dragon mystérieux ou un truc comme ça, qui n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, un memory où on lance un dé, on se déplace, puis quand on arrive sur une case sur laquelle le petit dragon a sa flamme qui s'allume, on a gagné une gemme. Et c'est très... alors c'est à partir de 5 ans, donc effectivement pour les plus jeunes enfants, ça permet de pouvoir lancer le dé, d'avancer, de retenir que sur certaines cases où le dragon s'est arrêté, on peut aller chercher un gemme. C'est pas mal, mais ça révolutionne pas le genre. Et puis je crois que je suis resté coincé sur cette époque où ils étaient vraiment innovants, et c'est pas ce que j'ai retrouvé. Donc bon, voilà, un peu déçu, mais voilà.
Oui, c'est l'éditeur dont ceux qui faisaient les jeux, les auteurs initiaux sont partis monter leur boîte, quoi. C'est ça ? On est d'accord. Hein. Alexis, tu voulais nous parler d'une petite anecdote sur la pyramide des animaux ? Ah non, on coupera au montage, ça.
Il n'est pas là. Oui,
voilà. Elle est bonne. Ouais. Alors, en revanche, ce dont on peut parler avec des gens qui sont là, c'est le retour des boîtes à pizza. Effectivement, nous avons pu apercevoir une boîte à pizza avant la matière du jeu Steam Rollers, qui était vraiment packagée dans une boîte type boîte à pizza, en format petit quand même, hein, petit appétit. Alors qui est-ce qui disait que ça n'avait pas forcément disparu, cette boîte à pizza?
C'était moi. Moi, je l'ai dit aussi que ça n'avait pas vraiment disparu, qu'on en trouvait chaque année quelques-unes dans le fond du salon.
Ouais, c'est juste que là, effectivement, on en avait peut-être un peu plus entendu parler par chez nous, puisque c'est un éditeur belge en fait qui sortait Steam Rollers. J'en reviendrai dessus plus loin, je vous en parlerai. Et qui, Olivier, c'est toi qui voulais nous parler des buzz du salon?
Si, bon, allez. Le buzz, qu'est-ce que c'est que le buzz? On va faire la philosophie. C'est pas hat-trick. C'est hat-trick. Donc on a joué en fait. Vous aviez précommandé. Guillaume avait précommandé un jeu qui s'appelle hat-trick, qui était censé être un des deux jeux de hack informatique en fait du salon. Le deuxième on en parlera peut-être aussi, mais ce jeu-là en particulier qu'il est allé chercher assez rapidement sur le salon et qui visiblement s'est très bien vendu. Et j'ai été désespéré quand j'ai vu une annonce de Ludovox qui disait hat-trick, le jeu qui buzz sur Essan. Et en fait hat-trick, qu'est-ce que c'est? C'est un morpion. C'est-à-dire que tu as un carré de... Je ne sais même plus combien il y en a des cases, mais tu dois... C'est ça, c'est vraiment 9 cases. Et tu as des cartes, tu vas jouer une carte à la suite d'une autre, et tu vas additionner les deux chiffres, et tu vas pouvoir poser ton pion. Et il faut faire des lignes, il faut aligner 3 pions. Mmh. Voilà, c'est ça le buzz du salon. Donc il y a ça, ouais. Baby Blues, je sais pas d'où il sort, mais je pense qu'il était près du stand de BGG, donc il y a eu un peu du bourrage d'urine. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à le passer celui-là, du bourrage d'urne. Et puis le Fair Play Scout, alors qu'est-ce qu'on voit à la première place du Fair Play Scout 2015? La grande jarre. Et là tu fais ouais, le buzz la de 2015 jarre. Alors que c'est un jeu qui est paru l'année dernière et qui a fait le buzz l'année dernière, quoi. Et tu te dis mais enfin Donc après, il y a mon Bassa, il y a Nippon, des jeux plutôt cubes en bois, plutôt aussi pas loin du fair play. Le fair play, c'est quelques centaines de personnes sur les 170 000 personnes qui sont passées sur le salon. C'est bizarre. C'est très bizarre.
Bah c'est un sujet qui a été déjà abordé pas mal de fois dans Proxy Jeux. Le fair play, c'est un classement particulier. Après, il fait référence quand même. Maintenant, effectivement, quand on voit la grande jambe en premier, est-ce que c'est pas là aussi le signe que il y a un emballement du nombre de jeux et que les gens ils ont même plus le temps de voir les jeux de l'année dernière, quoi. Enfin, je sais pas, c'est.
Non, c'est parce que la Granja cette année était chez PD Fairlag et que c'était un éditeur avec une plus grande visibilité, de la même façon que Mysterium était chez Libellude au lieu d'être simplement chez Portal avec 5
ouais.
boîtes.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Mysterium, Mysterium est quand est même pas en 9ème position. Aucun goût.
Oui, c'est ça.
Après, non, mais attention, on l'a dit, le fair play, c'est un public particulier quand même. C'est typiquement un public de core gamer quand même. En général, on voit quand même des gros jeux en tête du fair play.
Ah, il était quatrième GBGG, Mysterium.
Et justement, le classement BGG, c'est quoi?
Seven Wonders Duel en numéro 1.
Ouais, ça me semble plus proche de la réalité là.
Là-dessus, il y a l'anecdote de Bruno Catala qui est marrante, qui a dit « Je dis tous les ans que ce classement veut rien dire, je vais pas changer d'avis parce que mon jeu est premier. » Donc voilà, ça résume assez bien ce qu'on disait aussi sur le fair play tout à l'heure.
Pas mal. Puis après, avant de passer au jeu à proprement parler, on avait deux petites anecdotes à raconter. Alors les pots, il y en a toujours. Il y en a pas le samedi parce que les gens sont fatigués parce qu'ils ont bu beaucoup le jeudi soir chez Yellow. Chez Yellow.
Attends, tu vois, il y avait un pot.
Ah oui.
Il y avait
oui,
le pot proxy jeu. Pas un pot, le samedi.
Mais ouais, et puis ça n'a pas l'envergure du pot Yellow qui est encore plus grand, donc il y avait vraiment beaucoup à boire. Français,
bah attends, surtout quand on oublie les bières.
Français, ils amènent du vin. Les Belges, ils ont emmené de la bière. Et, les Belges.
Et nous, on a amené du coca.
Les Toulousains. Ah, je sais pas. Parce qu'on y est allé, puis ils avaient une demi-heure de retard et les sushis, on les a pas vus. Tant pis. Donc les pots, c'est bien. et puis bah, notre pot, c'était rigolo de voir nos auditeurs. Et puis avant de passer à la présentation des jeux, parce que je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle déjà? Ah bah ça va. Petite anecdote que racontera Alexis Servien. On teste la gastronomie allemande. Donc on mange beaucoup, on mange pas.
On teste tous les restos.
On mange le chinois. Et puis là on a fait chabou chabou, mais ça c'est. Vous le saurez si jamais. Alexis revient.
En termes de gastronomie, oui. Moi, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur celle qu'on trouve sur le salon, oui. Qui a beaucoup évolué depuis 2-3 ans, mais cette année encore plus. On a vraiment une plus grande variété, on trouve des fruits, on trouve des crêpes, et la currywurst, c'est quand même en voie de disparition, je trouve, globalement.
Daniel, je t'ai pas entendu, excuse-moi.
En fait, on t'entend pas, Daniel.
Je suis d'accord avec Merlin. On trouve des pâtes, on trouve des flammes cucheux, mais ça, c'est une escroquerie. On trouve des patates coupées en spirale. On trouve vraiment énormément de choses.
Des smoothies.
Oui, c'est ça. Ouais, des pâtes. Excuse-moi, j'ai dit des pâtes, c'est une des rares occasions qu'on a, nous, Français, de voir des pâtes dans les petits pots en plastique, en carton, comme dans les séries américaines. D'autres anecdotes, peut-être, sur le salon, parce que là, on a. Enfin, moi, j'ai encore l'impression d'avoir beaucoup parlé.
Mais parce que tu avais plein d'anecdotes à raconter sur le salon, tu nous avais prévenu. C'était ton premier Essen.
Ouais, c'était mon premier Essen, effectivement. En fait, c'est à peu près ce qu'on attendait. J'avoue que le samedi après-midi, pour moi, c'était trop de monde. Du coup, je suis rentré tranquillement jouer avec les jeux que j'avais déjà achetés. Pour le reste, finalement, c'est ce qu'on attend, quoi. C'est un gros supermarché. C'est l'occasion de pouvoir quand même un tout petit peu discuter avec les éditeurs, les auteurs quand on les trouve. Moi j'ai bien aimé. Je pense que du coup c'était le premier, mais peut-être pas le dernier.
Tu y retourneras l'année prochaine ou tu vas attendre Il y a pas mal de gens qui viennent pas tous les ans, qui viennent une année sur deux ou une année sur trois. Toi tu reviens l'année prochaine?
Ouais, je pense. Peut-être pas les 4 jours, par contre, effectivement. On fera peut-être un peu plus court, mais parce que 4 jours, j'aime beaucoup jouer, mais je pense que pour moi, c'est un peu trop.
T'as fait 3 jours et demi?
Oui. Enfin, 3 jours et demi, c'est un peu trop. Donc, non, je pense effectivement, jeudi, vendredi, si on arrive à faire ça, pour moi, je pense que ça sera très bien.
Yannibus, traditionnellement, arrive le mercredi soir et repart le vendredi soir ou le samedi matin.
Ouais, je pense que c'est vraiment pas mal parce que finalement, le samedi est très très plein. C'est clair, si t'as pas fait tes réservations pour te poser tranquillement et jouer, c'est assez pénible finalement. Et puis le dimanche, tout le monde part et toi aussi tu dois partir parce que t'as pas pris ton lundi et que tu rentres et t'es ravagé pour aller bosser la semaine. Donc s'arrêter au vendredi soir à partir le samedi, ça me semble vraiment bien compromis.
Il faut prendre son lundi.
Non, mais sur le week-end, les samedis dimanches, en fait, d'essayer des jeux plus courts finalement, sur lesquels il y a plus de roulement. Moi j'aime bien aller sur les stands justement allemands. Des gros éditeurs allemands, parce que là t'as un moyen de t'opposer typiquement, de faire comme les familles allemandes. Alors, de te poser une heure et d'essayer 2-3 jeux.
Je suis juste à l'envers de toi, c'est à dire que samedi après-midi on a joué à 504 et on s'était aussi prévu dans l'après-midi, je crois de vendredi, une partie de Food Chain Magnet. Je vais en dire juste deux mots. Food Chain Magnet, c'était le jeu de Splatter cette année. Donc un gros jeu qui va vous faire bouillir le cerveau, où cette fois-ci vous allez devoir construire, alors pas construire des choses, mais monter votre société. Alors d'abord, vous allez décider si vous êtes le CEO, est-ce que vous prenez un cuisinier, ou est-ce que vous prenez quelqu'un pour embaucher d'autres personnes, ou est-ce que vous prenez quelqu'un pour faire de la publicité. Il y a des achievements qui sont bizarres, mais qui, c'est une course. Quand on atteint des paliers, on a des rewards, des récompenses. Et puis après, on doit donner, donc food chain, on doit vendre des produits à des gens qui en ont envie, donc on va leur donner envie d'acheter les produits qu'on fait. Mais par contre, on peut éventuellement faire de la pub pour que ce soit notre adversaire qui lui vende et que nous on se retrouve à pas pouvoir vendre. Bref, oui.
Donc en fait, tu fais à manger des burgers, et pour vendre tes burgers,
c'est
tu
ça.
Rajoutes un prosperity.
Absolument.
Comme ça marche.
Et c'est ton collègue qui vend lui du coca et des burgers qui va vendre ça avec un prosperity. Donc on l'a fait
Et tu t'es fait avoir.
Parce que c'est quand même assez long, et on a joué pendant 2 heures, et en fait le samedi après-midi... Moi, un peu moins, moi. J'ai tellement fait du caca que...
Oui, je témoigne.
J'ai dit, c'est bon, je suis en train de jouer pour vous, donc ça suffit, j'arrête. Et puis ça, c'est pas vu, hein, c'est ça qui était bien. Mais voilà, donc il y a un certain nombre d'occasions de pouvoir réserver une table, de pouvoir s'asseoir. Et le samedi, quand tout le monde est debout en train de faire de l'épaule contre épaule avec les autres, voilà. C'est un peu...
Non, mais ouais, mais moi j'ai fait l'erreur du débutant en fait, hein. C'est clair, c'est... l'erreur du débutant c'est
ne
pas utiliser son jeudi pour réserver des tables pour le samedi. Si tu le fais pas, t'es mort.
Ouais, enfin, moi j'avais réservé une table pour le samedi et j'ai regretté, hein. Ça a duré 1h30, c'était long.
Pas bien.
Hipoc.
Ce silence en dit long.
Oui, oui.
Mais à cause du jeu ou à cause des joueurs?
Très longue. On va dire à cause des joueurs, parce que les joueurs... À cause des jeux, à cause du jeu, parce que les joueurs sont sympathiques.
J'ai juste une dernière chose. Excusez-moi, je vais vous rendre la main, mais... Je suis allé sur le stand AEG.
Et aussi.
Et alors, on parle beaucoup d'économie et de sous et de tout ça. Ils sont drôles chez AEG. Ils vendent un jeu, je crois, 15 euros, 10 euros. Donc c'est Love Letter, je sais plus à combien il était, 10 euros, 15 euros. Un Love Letter Batman ou un Love Letter Le Hobbit. Et quand on en prend 4, c'est plus 10 euros, c'est 15 euros. Donc déjà, c'est un changement d'échelle. Et puis j'en ai pris 4, j'ai pris donc Love Letter Adventure Time, Batman, Le Hobbit, et puis j'ai repris un Empire Engine qui est pas arrivé en France encore, sauf erreur de ma part, pour offrir. Et le gars me dit, mais vous avez pris quoi? Ah ouais, vous avez pris ça. Et bah tenez, je vais vous mettre aussi un Munchkin Loot Letter, donc ça m'en fait un cinquième. Et avec tout ça, j'ai un gros sac. Donc je sais pas comment ils vivent ces gens-là, mais c'est très 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 étrange.
Ah oui, le sac.
Chez AEG, en fait, ils utilisent le principe de la braderie. Ouais, c'est quand ça. Ils te vendent des parfums, je vous en mets un, je vous en mets deux, je vous en mets trois, je vous en mets quatre.
Pardon, Nicolas?
Sinon... Ouais, non, en fait, il y a aussi un truc que j'avais oublié de dire complètement, mais qui m'a marqué sur cette Essen-là, c'est la recrudescence des jeux 2D, du jeu de des jeux légers, des jeux lourds, enfin lourds, aussi lourds qu'un jeu 2D puisse être, mais quand même. Je pense que j'ai dû en essayer 4-5 sur le salon, et j'en ai encore loupé au moins autant. Donc, ça avait l'air d'être l'année du jeu de dés, en fait.
Ça fait quelques années.
Donc voilà, c'était très intéressant.
Ça fait déjà quelques années qu'il y a beaucoup de dés.
Je suis d'accord avec David, je pense que c'est... On arrive effectivement à un moment où il y en a beaucoup, mais...
Mais il y a un moment où il y a beaucoup de jeux tout court aussi, donc forcément, il y a beaucoup de jeux de dés, il y a beaucoup de jeux de plein de choses.
Les Allemands ont découvert que le
jeu avait
la forme d'un cube, du coup on remplace les cubes par des jeux.
Dany, toi,
c'est peut-être
ton
ça. Il y a peut-être de ça.
Alors, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Oui.
Bon, magnifique. C'était bien. Hop, je sors du chat. C'était bien sympa. J'étais bien contente d'y retourner parce que moi j'y vais tous les deux ans vu que entre temps j'ai fait des gosses, donc une année sur deux j'étais punie. Donc j'étais bien contente de pouvoir y retourner. Toujours contente de trouver des vieilleries que je trouve très difficilement en France. On n'avait pas trop prévu, on y allait un peu en touriste et finalement on a découvert pas mal de trucs un peu au feeling. Et bon, on y était que deux jours, mais c'était chouette.
Merlin?
Voilà.
Ouais.
Oui.
Un sentiment général au niveau du salon.
C'est ça?
Ouais. Un sentiment général au niveau.
Bah écoute, j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde que les années précédentes, que c'était plus chargé. Curieusement, j'ai trouvé l'hégémonie ou la présence francophone au niveau des éditeurs moins marquée. C'est un sentiment. J'ai l'impression que les Allemands se rebellent un peu, en fait. Et puis j'ai été moins raisonnable que les années d'avant.
C'est possible ça?
Je sais pas si j'étais moins.
C'est possible ça?
Oui, c'est possible. L'an dernier, j'avais pas été trop mal. Donc là, j'ai été moins raisonnable que les années d'avant, avec quelques forts loupés d'achats en blinde. Et puis.
c'est le principe.
Non, mais toi, tu fais les choses bien, en fait.
Oui, j'en ai déjà revendu.
C'est ça. Non, mais toi, tu fais les choses.
Tu revends sur le salon déjà directement.
Ouais, cette année, je l'ai revendu deux jours après seulement. L'an dernier, j'avais réussi à le vendre sur le salon. Okay. Wombat Rescue. Okay. Je déconseille.
Pour s'en douter.
Et globalement, quelque part, il n'y a pas beaucoup de jeux étrangers qui ressortent, je trouve, alors que les jeux français, il y en a quelques-uns qui vraiment ont marqué cette édition, et peut-être durablement d'ailleurs.
ça explique peut-être effectivement pourquoi moi j'ai pas eu le sentiment d'avoir trouvé le jeu du salon autant sur les Essen précédents. J'en reviens toujours, enfin mes deux Essen précédents, j'en venais avec un jeu en me disant ouais j'ai acheté un jeu qui vient de tel endroit machin, j'aurais du mal à le retrouver en France. Autant là j'ai pas eu ce sentiment parce que effectivement quand je vais à Essen je regarde pas trop les jeux français et effectivement si les jeux français étaient les meilleurs ben je les ai pas vus quoi.
Il y a un phénomène, moi cette année, entre PEL et l'Asmodée, j'avais dû même essayer beaucoup de jeux avant, et ce qui fait que c'était pas tout à fait une découverte, et
l'impression
est forcément différente.
L'autre buceau des scènes avec...
Ouais, ça se comprend, effectivement.
Iso ?
Je vois pas qui tu parles.
C'est Eric, on parle d'Eric.
Ouais, premier... ouais, ouais, voilà. En plus, il parle pas français, alors c'est encore plus compliqué... ouais, le premier SN, et puis, comment dire, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes réflexes que quand je participe au Game Market. C'est-à-dire que je fais pas mal de précommandes. Et du coup, ça, c'est un réflexe qu'on a au Japon, parce que si tu fais pas la précommande, tu réussis pas à avoir les jeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à SN, après 3 jours, il restait encore des jeux sur les stands, quoi. Donc, du coup, si je retourne à SN un jour, je ferai plus ça. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai vraiment quand même eu l'impression que c'était... Bon, l'impression supermarché, ça, c'était assez évident. Mais en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé dans le... Comment dire, à Essen, c'est le côté rencontrer des gens en permanence. On s'arrête toutes les 5 minutes. On peut voir des auteurs, des illustrateurs, évidemment, les gens de Proxy Jeux, tout ça. Et il y a vraiment une ambiance qui me change complètement de ce que je peux vivre au Game Market, où c'est juste de l'achat impulsif ou en préco, et très peu de tests des jeux. Alors, s'il y a un ou deux regrets que j'ai par rapport à cette première expérience d'Essen, c'est vraiment le... Je pense que j'aurais préféré essayer plus de jeux. Je connaissais pas le principe de la réservation de la table, et si j'avais été au courant de ça, ou si je m'en étais rendu compte un peu plus tôt, je pense que j'aurais probablement réservé pas mal de tables pour essayer un maximum de jeux avant d'en acheter, quoi.
Ouais, enfin, tous les éditeurs ne permettent pas la réservation de table non plus. Hein.
Ouais, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette possibilité quand on est habitué à un game market où il y a pas de... Comment dire, on n'essaye pas les jeux sur place. Je trouvais ça vraiment intéressant, quoi.
Oui, moi j'utilisais... un éclaireur, enfin une éclaireuse le matin pour avoir une table à l'entrée du salon à 10h pour à chaque fois essayer un jeu intéressant comme ça avant de
faire. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a ces grands
bon
halls où il y a beaucoup de tables et après il y a pas mal d'éditeurs qui n'ont qu'une seule table. Un peu compliqué. Je vois, tu avais fini. D'accord. Si,
oui.
tu peux.
Je vais pas parler de la patate en spirale parce que j'en ai un mauvais souvenir.
C'est parce que
Non, j'ai trouvé ça juste. J'ai trouvé juste ça horrible.
Tu vis au Japon, tu
vois. J'ai
pris qu'une bouchée. Disons, ouais, j'ai un peu de mal avec.
Parce que je vois que Alexis est arrivé parmi nous. Alexis, c'est Ultra Lord 77.
Qui est Alexis ?
Il est censé être connecté.
Le roi de la clochette, on l'appelle. Bon, sur
fait une pause.
On le reprendra après la pause. Dédé, t'avais une anecdote ?
Ouais, moi j'avais une petite anecdote encore. Ça concerne les passes d'entrée des scènes. Vous savez qu'il y a des... On peut avoir des prix si on est un groupe. Et du coup, comme moi je ne venais pas le jeudi, j'ai demandé à mes copains... Ouais.
J'ai demandé
à Alexis d'en prendre, parce qu'Alexis il a ses entrées pour avoir des passes un peu spéciaux. Mais malheureusement, cette année, il n'a pas pu en avoir, il a pu en avoir une que pour lui. Et du coup, je me suis dit, bon, mais les autres, on dort ensemble, dans le même hôtel, ils doivent se souvenir qu'on est
c'est
là.
C'est déjà beaucoup.
Et non, tout le monde m'avait oublié, merci l'ambiance, quoi.
Je t'en prie, ça nous a fait plaisir.
À noter que tu n'es pas seul, parce qu'il y en a d'autres qui devaient se retrouver
non, mais...
pour prendre aussi ce pass-group.
Non mais attends...
aussi est exnobé.
Je comprends pas. Elle m'a dit c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'arrive, je trouve quelqu'un et on y va, quoi. Tu sais juste pas y faire. Ou alors t'es beaucoup moins joli qu'elle.
Ah ouais, bah
on a. Ah ouais. Oui, on n'a pas les mêmes arguments.
Ça c'est ce que t'as raconté.
Et ben, je suis bien content. Et ben, je suis bien content que ce soit pas elle qui aille faire du racolage.
C'est moi qui suis allé faire du racolage.
Voilà. Ah, c'est ça.
C'était Cyrus avec son t-shirt super lude. Et ça a super bien marché.
Merci Antoine
oui,
pour le
chose, prêt ça, du t-shirt. Ça devient un petit peu décousu cette affaire, mais c'est pas grave. On n'a pas parlé de Japan Brand. Moi, un truc qui m'a choqué, entre guillemets, enfin qui m'a un peu surpris, c'est que on avait l'habitude les années précédentes que tout soit sold out dans la journée. Et là, on a vu des jeux Japan Brand longtemps après. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a plein de jeux qui sont restés. Est-ce que tu as une analyse de ça, Yannick ?
Ouais, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'ils ramènent plus de jeux. Alors, ils fonctionnent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, principalement via BGG, oui. Ils fonctionnent aussi encore avec la précommande. C'est très japonais. Mais je pense que cette fois-ci, ils ont ramené beaucoup plus de jeux que d'habitude. Ils prennent confiance. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'auteurs japonais qui se disent que SN, c'est vraiment un moyen de vendre les stocks qui restent de jeux. Quoi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui achètent à l'aveugle, évidemment, puisque les règles ne sont pas encore traduites quand les jeux sont mis en précommande. Il n'y a personne n'y a joué, à part les quelques happy few qui vivent au Japon. Mais du coup, il y a ça. Et puis,
même parfois les traducteurs.
Ouais, ouais, même les traducteurs qui ne reçoivent pas les jeux, qui traduisent à l'aveugle, comme moi. Mais surtout, je pense qu'il y a un autre problème, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que d'habitude, Japan Brand essaie de ramener, on va dire, les meilleurs jeux. Et je pense que cette année, il y avait dans la sélection de très, très mauvais jeux. Vraiment. Et c'est un peu, comment dire, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais le responsable de Japan Brand propose... Alors, repère quelques jeux et propose à les auteurs de les accompagner à SN. Et je pense que là, il manquait un peu de jeux et du coup, ils ont un peu élargi l'accueil. Et j'ai vu des jeux que j'ai refusé de traduire parce que c'était au niveau de la thématique ou au niveau de ce que le jeu proposait. Ça me semblait complètement absurde de passer des heures à traduire ça, quoi.
Quel genre de thématique ?
Barbarossa ?
Ah, bah, il y en a un.
Oui, c'est un bon jeu, dans le fond.
Ça, c'est... Au moins, il y a une mécanique derrière, mais... dans le fond, je ne sais pas si j'aurais...
Sous la culotte, il y a un bon jeu.
Mais je pense qu'il y a un jeu, par exemple, où on essaye de créer une petite starlette de la musique. Et c'est vraiment la société japonaise, quoi, avec les idoles, tous ces petits groupes de jeunes filles que les producteurs essayent de mettre dans les émissions de télé, etc., pour faire vendre du disque, quoi. Donc, c'est choisir les bons vêtements, lui donner les cheveux d'une couleur particulière pour gagner du point bonus.
Pourquoi ?
Ce genre de truc un peu absurde, quoi.
Ça pourrait
Olivier.
Non, je n'écoute encore pas de pop japonaise, donc mais.
Non mais jette un œil à AKB48, ça te donnera une vision un peu de la production musicale, en tout cas la J-pop avec
tout interchangeable
de 30-40 filles qui chantent sur scène. Oui, en fait il y a des élections. On essaie de garder les meilleurs et chaque année ça change. Il y a la reine du groupe. Enfin bref, c'est un peu compliqué.
Oui, effectivement.
Alors,
ça demande un podcast rien que pour ça.
Monsieur Ultralord, tu es là. Ah, bonsoir.
Oui, enfin.
Il s'appelle Désiré.
Bonsoir. Bonsoir, Alexis. Ouais. Alors, oui. Je peux peut-être faire ta petite introduction que j'avais prévue.
Introduis-le.
Nous recevons enfin Ultralord, celui dont Thor lui-même pâlit devant la taille de
son. C'était mieux que la mienne, je vais me plaindre.
Pas mal, mais il n'était pas là.
Et oui, oui.
Je pense que Thor n'est pas d'accord, mais...
Je pense que t'as tort. Mon marteau.
Bon, je pense qu'on a fini sur la partie...
Bah non.
On retourne un peu en impression et anecdote sur Essonne.
Bah non. Mais non, on n'a pas entendu Alexis. Tu rigoles,
si.
Toi.
Après, on va parler des jeux.
Bah non.
On n'a pas entendu Alexis.
Et puis de Belges aussi.
Oui, tout à fait.
Mais bon, ça
tu veux nous parler du
Chapeau
Chapeau.
Alors, Alexis, ce n'était pas ton premier Essen, et pourtant tu l'as beaucoup apprécié, et ce n'est pas forcément que à cause des jeux, mais aussi à cause du Chabou Chabou. Raconte-nous un peu cette année 2015 à Essen, comment ça s'est passé pour toi ?
Eh ben déjà, cette année, on n'a pas enregistré tous les soirs, ce qui permet de jouer, d'aller manger au resto, de prendre son temps, et puis de découvrir le Chabou Chabou. Donc le Chabou Chabou, c'était une belle expérience, parce qu'en fait, gastronomiquement, c'est juste une fondue chinoise, hein, donc un gros bouillon dans lequel on fait cuire plein de trucs. Ce qui est toujours marrant, c'est de parler parler en anglais à des gens qui ne comprennent pas forcément beaucoup et qui s'attendent à ce qu'on leur explique en allemand qu'on veut des pieuvres, donc c'est toujours compliqué.
Donc, ouais, l'ambiance était sympathique. Je fais le geste avec les mains.
Voilà.
L'ambiance était sympathique. Tu voulais dire que c'est ça. Tu veux dire que la moitié de la table ne voulait pas être là. La moitié de la table voulait partir, ne voulait pas manger ce qui était dans ce bouillon qui est de toute façon.
C'est à peu près ça.
Ah, il faut dire qu'on
trempait quand même tous nos baguettes
Non mais faut voir que on a demandé un peu de tout et qu'on a eu quand même des choses un peu alternative.
Oui, mais des choses alternatives quand même.
On a eu un peu de tout. On a eu un peu de tout, mais des trucs qu'on ne souhaitait pas avoir, en fait, c'est ça.
Non, il y avait aussi mais... de la...
Comment ça, vous n'aimez pas les algues?
Même des choses dont on ne sait même pas ce que c'est. Et
non,
même après l'avoir mangé, on sait
c'est
toujours
c'est
pas ce que c'est.
C'est des abats de porc, des trucs comme ça. Encore, on a échappé au pied de poulet, mais c'est une vraie nourriture chinoise, c'était très bien, en fait. C'est ça.
C'est un peu comme quand tu prends un Mirmès et que tu te retrouves avec un Prosperity. Mais au niveau culinaire.
C'est ça, l'analogie est pas mal. Ouais. Enfin bref, si vous voulez l'adresse, on vous la donnera, hein. Il n'y a pas de souci.
Oui, j'ai pris la carte.
On la retrouve. Enfin, il a pris la carte, c'est parfait.
D'ailleurs, j'ai précisé que je ne reviens pas l'année prochaine. Il va pas.
L'effet marquant de
l'été
salon pour toi.
C'est dommage.
Alexis, t'as pas préparé? Tu savais pas qu'on enregistrait
question,
ce soir?
J'ai pas réfléchi. Non, bah, exactement. Non, mais le fait marquant, non. Non, mais moi j'ai passé beaucoup de temps dans le hall 7. Le fait marquant, c'est que c'est la première année où j'ai joué, surtout. Et du coup, j'ai fait un salon en tant que joueur et pas en tant que prospecteur pour aller vendre du prototype ou de la traduction ou faire des enregistrements le soir. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout la même approche. Et du coup, c'est aussi vachement plus sympathique et vachement plus reposant. Je cache pas que j'avais des craintes avant d'y aller en me disant bah c'était quand même super sympa qu'on enregistrait tous les soirs. En même temps, c'est vrai que c'était super crevant. Et puis, et du coup, c'était très très bien comme ça. Et du coup, on a profité de ce temps là pour découvrir des gens, et puis enfin tous les gens qui étaient là, et c'était très sympathique, et c'est très très bien aussi comme formule.
Et qu'on s'est fait une soirée relou, hein. Les anciens proxyjeux, c'était rigolo aussi. C'est ça, mais vous avez joué, vous
la
avez joué
soirée
après,
où on devait rentrer tôt pour jouer, bien, ça, quoi, on n'a pas joué. Oui, la nuit des magiciens, je crois qu'on a fait, et puis je sais
pas. Ninko.
Exact, la partie qui a duré 2 heures.
80 minutes, tu l'as chronométré toi-même.
Très bien. Est-ce que tout le monde s'est exprimé sur son salon? Est-ce que tout le monde a dit un petit peu comment c'était passé, ce qu'il avait aimé, ce qu'il n'avait pas aimé? Est-ce qu'on a oublié personne? Personne. Est-ce que vous voulez faire une petite pause?
Donc ça va.
Je pense qu'on va faire une petite pause. Okay.
Oui, moi j'en ai vraiment besoin.
Bien. Ouais, vous. Ouais, ce qui donc non, on reprend à 22h32, on reprend à 22h40.
Une pause café.
Ça vous va? On essaie de reprendre de parler à 22h40.
Ça marche.
C'est ça, 5h40.
Oui. Okay. Tu veux dire 5h40 ici?
Super, moi aussi.
Allez, oui, monsieur le président.
Tente de faire un café, Izou.
Ah oui, là. À tout de suite.
À toutes. Eh bien, je pense qu'il est temps Absolument. De passer à nos revues de jeux.
Tout à fait.
Alors, si on commençait par Dany, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, premier jeu dont je voulais parler, moi, c'est Spinderella, qui est Gare à la toile pour les francophones. C'est le Kinderspiel des Jahres, un jeu de Roberto Fraga qui est édité chez Zorspiel. Donc Zorspiel, c'est un gros éditeur allemand qui fait plein de jeux, souvent pour enfants, qui ont,
c'est Zoc.
En tout cas à mon goût,
Excuse-moi
des super,
de ça, c'est Zoc,
des super belles illustrations. Je suis toujours...
Oui, mais pour les gens, non, pour les gens comprennent,
elle
faut
est
le dire mal.
C'est mieux le prononcer que toi.
Excuse-moi pour la note.
Ouais, c'est... J'avais pas, pour... J'avais pas réfléchi à ça, mais oui, forcément, moi, je dis Zorspiel parce que... Voilà, donc Zoc. Qui,
ceux qui font Pique Plume, voilà, comme ça, les gens, ils font la référence.
Eric ouais, et, édité par Gigamic en France. Ou distribué par Gigamic. Et donc Spinderella ou Gare à la toile, donc ça c'est un jeu où on joue des fourmis qu'on doit emmener d'un bout à l'autre d'une forêt, et cette forêt est hantée, si on peut dire, par une araignée qui se balade au-dessus de la forêt. On joue avec tout bêtement un dé. Le dé permet de savoir si on avance ses fourmis, si on déplace l'araignée ou si on cache une fourmi sous une souche d'arbre. Ce qui est plutôt sympa, c'est que l'araignée, elle est vraiment pendue au-dessus du plateau. En fait, il y a une structure avec quatre mini pylônes, c'est pas le bon mot, mais on va dire ça comme ça, qui tiennent une structure, et l'araignée, elle bouge grâce à des aimants. Donc on peut vraiment la faire descendre de son fil et choper les fourmis des autres, ce qui est toujours ce qui est assez jouissif et plutôt sympa. Voilà, c'est un jeu qui a un super, super beau matériel. C'est tout simple, mais ça marche plutôt bien. Il était pas mal mis en avant à Essen parce que déjà c'est le Kinderspiel des Jahres et Zoc donc a des gros moyens. Pour la petite anecdote, il y a un jeu de 78 qui s'appelle Allez saute, qui repose un peu sur le même principe avec un parachute, enfin un avion qui largue des parachutes, et qui est une de mes Madeleines de Proust de quand j'étais petite, hein, des jeux auxquels on a passé du temps en famille. Donc il m'intéressait bien, et voilà, je pense qu'il rentrera Alors, dans la ludothèque un moment ou un autre. Voilà, je sais pas si quelqu'un a essayé aussi, veut en dire quelque chose.
Ah, Spinderella, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Alors, par contre, moi j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeux de Roberto Fraga sur le salon. Il y en avait
Dont
trois.
Deux là, qui s'appellent si Docteur quelque chose, c'est ça
qui venait juste de sortir. Il y avait Docteur Eureka chez Blue Orange, qui est très sympa, un jeu de rapidité où on essaye de faire passer des billes de couleur d'un tube à l'autre. On a trois tubes devant soi. Et le jeu est très très malin. C'est avec les enfants, c'est pas forcément évident. C'est très amusant avec les adultes aussi. Et pour l'anecdote, on s'est posé une table de Blue Orange à un moment avec Eric, et puis Eve nous a rejoint. Alors avec Eric, on mettait à peu près 30 secondes pour réussir à faire à réussir ce qui était montré sur la carte avec les tubes et les billes. Eve s'est posée et elle réussissait les cartes en moins de 5 secondes. Alors, on n'a toujours pas compris comment elle faisait. On s'est rendu compte qu'on était vraiment très, très lent. Mais c'est un jeu que je trouve très, très bon. Le matériel est vraiment sympa. Bon, c'est très bruyant dans la valise, mais c'est très sympa. Et puis, l'autre jeu que j'ai vu aussi de Roberto Fraga, c'est Voilà, qui est sorti chez un éditeur russe, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Brain Games. Je pense qu'ils ont fait aussi Isle of Trains. Et dans Voilà, on a un sac avec des pierres dedans de trois couleurs différentes, jaune, rouge et bleu. Et là aussi, on a pas mal de cartes. À son tour, en fait, on va tirer une pierre du sac. Si c'est une pierre jaune, on la laisse sur le côté. Elle sert à gagner des points si on réussit à en accumuler plusieurs. La pierre bleue, elle demande aux joueurs en fait d'effectuer un défi, donc qui sont représentés sur les cartes. Donc c'est soit créer une chorégraphie avec des pièces en bois qui représentent des clowns, soit poser des pierres sur les mêmes clowns. Enfin, il y a plein de choses à faire et c'est un petit côté stop ou encore qui marche très bien avec un timer qui est caché par un autre joueur. Et les deux jeux sont très très bons. Et puis Spinderella qui est aussi très très bon, je trouve.
Oui, c'est agréable de voir Roberto Fraga récompensé avec Spinderella par rapport à toutes ses créations. Et moi, j'attends avec impatience Dr. Panic chez Repose Prod. J'avais essayé il y a quelques années et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans sa version finale.
Il était en présentation encore cette année, non, à Essen?
Oui, je crois qu'il y avait une démo proposée, mais par contre, je ne l'ai pas essayé.
Non, moi non plus. Mais...
Alors, pour revenir à Gare à la Toile, c'est un jeu qui se joue en moins de 30 minutes à partir de 5 ou 6 ans pour 2 à 4 joueurs et qui est disponible pour 30... Ah, qui n'est pas disponible, qui est en rupture chez Philibert, qui coûte à peu près 32 euros et c'est du Gigamic, donc ça va revenir assez rapidement.
On passe à Dédé. Dédé, tu peux nous parler un peu d'une de tes découvertes du salon?
On va peut-être dire au revoir à Dani. Qu'est-ce qu'elle nous a dit qu'elle avait
ouais, je crois qu'elle est...
petites choses à gérer.
Je vais vous laisser pour ce soir à regret. Mais si je veux passer dormir un peu mieux le reste de la nuit, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Donc merci. bonne continuation pour la suite.
Et merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci,
ouais,
salut. Merci à vous. Ciao.
À bientôt.
Bisous. Oui, alors moi je vais vous parler de Potion Explosion. Et pour reprendre une expression chère à Olivier, alors est-ce que tu connais Candy Crush? Eh ben là, c'est pareil.
Non, c'est, bah, alors, en général,
en général c'est avec le Monopoly, mais là c'est avec Candy Crush. Parce que c'est donc les Italiens de Cranio qui ont créé une autre marque qui s'appelle Horrible Game. Et qui nous propose Potion Explosion, un jeu dans lequel il y a des billes qui sont sur un toboggan, enfin quatre toboggans, et le but c'est de prendre à son tour, chacun prend une nœud, on prend une bille, et si des billes d'une même couleur se touchent suite à la bille qu'on a enlevée, et ben on peut récupérer ces billes aussi, un peu comme à Candy Crush, quoi. Et moi j'ai bien aimé, c'est ludique, ça se joue vite, à son tour on prend une bille et on les place, parce que devant nous on doit faire deux potions, et donc faut placer les billes, donc les billes noires sur les potions noires, et ainsi de suite.
Alors moi j'ai un autre tour, parce que j'y ai joué à 4 avec 2 Polonais, fort sympathiques d'ailleurs, mais par contre ça a été pour nous très très long entre les tours, et véritablement très très pénible à attendre pour pouvoir prendre ses billes, sachant qu'on ne peut pas programmer à l'avance vu que tout est détruit par ce phénomène d'explosion des billes. On est vraiment obligé d'attendre son tour pour planifier et faire son action. Et même si on n'a qu'une action, prendre une bille, c'est vraiment très long. Enfin, en tout cas, nous, on n'a vraiment pas accroché.
Ouais, moi j'ai... Bon.
Parfait pour compléter l'extension Citrus.
j'ai joué à 2, et à 2, ça marche bien. Mais c'était un peu comme Steam Park qu'ils avaient sorti l'année dernière. À 2, ça passe, à plus, c'est un peu long, quoi.
Ouais. Et tu, apparemment, tu avais un souci avec le matériel.
Alors,
aussi,
oui,
le
matériel. Alors, d'une part, eux, dans leur boîte de leur première édition, ils ont eu un problème avec la rampe des billes. Donc, ils ont donné sur le salon une punch board pour remplacer ça. Mais leur punchboard, déjà, il y a beaucoup de dépunchage parce qu'il y a beaucoup de potions différentes, et leur dépunchage est pas toujours très bien prédécoupé, donc il y a des bouts de peinture qui s'arrachent et c'est pas toujours très pratique. Et en plus, voilà,
c'est
et en plus
ça,
pour
quoi.
Faire la rampe, il faut avoir un level assez élevé en do it yourself parce que c'est un peu complexe quoi. C'est plus complexe que Colt Express. Colt Express à côté c'est level 1, là il faut au moins être level 3 en do it yourself.
C'est parce qu'ils t'ont pas mis la notice IKEA avec.
Il y a une notice
avec.
IKEA, mais comme ils rajoutent des pièces pour le correctif, la notice est plus juste et du coup, c'est un petit peu, c'est juste le point noir que j'ai vu déjà à ce jeu quoi. Mais à deux, c'est assez rapide quoi.
Et à quatre, très long. Mais bon, bah, à vous de vous faire votre idée.
Ça se trouve en France, tu crois ou pas? Parce
que non, je l'ai pas vu chez Philibert. Je sais pas s'il sera dispo. Les jeux de Cranio sont souvent édités en français. Faudra voir si celui-là sera édité pareil.
Il y a des fois un petit décalage aussi, si ça se trouve il était en avant-première sur Essen, c'est possible aussi quoi, qu'il arrive chez Philibert.
Voilà, après il faudra, s'il y a une édition française, on espère que le matériel sera, qu'ils auront revu un peu leur punchboard quoi. Alors il est fait tout en Italie, il est made in Italy, mais bon, des fois c'est bien que ça marche quand même quoi.
Et donc en résumé, donc Potion Explosion, c'est un jeu de Horrible Games dont les auteurs sont Stefano Castellini, Andrea Crespi, Lorenzo Silva. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et que vous trouverez peut-être prochainement en France chez Philibert.
Et que vous n'achèterez peut-être pas
à tester
pour autant.
Pas si vous êtes plus de 2.
Ok. Nicolas, tu voulais nous parler de l'Auberge Sanglante.
Un jeu avec des eunuques.
Oui,
pardon,
en fait...
Attends. C'est quoi déjà un gag
voilà,
de deuxième écoute,
de deuxième
c'est ça
écoute.
Ah, l'Auberge Sanglante. Ah, ok.
C'est pas ma meilleure. Hein.
C'était un à peu près. Ouais, donc l'Auberge Sanglante que j'ai, comme toi, acheté en blind sur le salon. Par contre, que j'ai testé directement en fait la journée off que j'ai fait sur le salon, donc le samedi même, qui reprend en fait le thème de l'Auberge Rouge, un vieux film avec Fernandel, et aussi un vieux fait divers de tenanciers d'auberge qui tuaient leurs clients pour arrondir les fins de mois, ce qui est une idée assez intéressante. Donc un très joli thème, très très original, des très belles illustrations par Weberson Santiago qui avait fait la version brésilienne de Coup il y a un an à peu près, un Kickstarter qui avait été soutenu par Proxy Jeux d'ailleurs.
Oui, absolument.
Donc pour résumer, le principe du jeu, c'est en gros, un jeu de deck building, c'est-à-dire qu'on a des clients qui arrivent à chaque manche à l'auberge. On va choisir un client et on va avoir en fait la possibilité d'utiliser les clients sous différentes formes. Ça rappelle un petit peu la gloire de Run pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'en gros, un client, on va pouvoir soit lui dire ben tiens, viens travailler chez moi, c'est sympa ce que je fais, et dans ce cas-là, il va servir de main-d'œuvre, ou alors il va pouvoir vous servir pour tenir une dépendance de l'auberge qui va vous permettre de scorer en fin de partie ou en cours de partie d'une façon ou d'une autre. Ou alors, ben, pas de bol pour lui, il va finir mort et enterré. Et une fois enterré, on va le dépouiller et récupérer l'argent qu'il a sur lui. On a fait une partie à deux, on a vraiment beaucoup aimé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une variante courte, une variante plus longue. On a joué pour l'instant à la variante courte uniquement, qui est très intéressante, mais frustrante, ultra frustrante, parce que finalement, on met en place son moteur et puis c'est déjà fini. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un gros, gros plaisir. Et encore une fois, ce qui est agréable aussi, c'est d'avoir un thème qui change un peu de pirate, zombie, héros dans un donjon, héros qui se tape dessus. Donc, le thème décalé fait aussi énormément. Et puis, les illustrations, vraiment, ça a tombé, quoi. Donc, voilà, une bonne découverte, un gros plaisir.
Et l'Auberge Sanglante, donc c'est un jeu de Nicolas Robert, édité chez Pearl Game, un jeu à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et pour des durées de 30 minutes à 1 heure.
C'est à peu près 22,50€ chez Philibert.
C'est même tout à fait 22,50€ chez Philibert.
Ah bah ça dépend si t'as la réduc. Si t'es un bon client, tu peux avoir la
réduc. Ah ouais, mais c'est ça.
Si tu participes au jeu proxy jeu et que tu as le bon de... Ah non, pardon, pas...
Oui, mais là, il y en a pas... Il faut qu'on reprenne. Ça, c'est un truc à remettre en place. Merlin, toi, tu as joué à Seven Wonders Duel.
Donc, oui, j'ai joué à Seven Wonders Duel. J'avais pu y jouer en avant-première. J'y ai rejoué sur le salon. J'y ai rejoué sur le chemin du retour. Comment dire ? Ben, je dirais, vous avez l'essence de Seven Wonders, conservant un système de draft, réussi à deux. Et vraiment, c'est un très bon jeu. Vous allez en fait, suivant, vous allez retrouver vos trois âges, vous allez retrouver vos mécanismes de chaînage, d'achat de cartes via les ressources. Il y aura quand même une petite différence qui a son importance. C'est que contrairement au jeu de base où vous avez uniquement une victoire au point ou à la fin du jeu, vous faites le compte des points acquis dans les différents domaines, civils, militaires, scientifiques, etc. Là, vous avez deux conditions de victoire supplémentaires. La première, c'est la condition de victoire militaire. Là, vous enfoncez les lignes de votre adversaire et vous atteignez en fait sa capitale. Et c'est une victoire immédiate, ou vous avez la possibilité d'avoir une victoire scientifique, une victoire civile, où vous avez en fait cumulé 6 symboles scientifiques différents, sachant qu'il y a 7 symboles sur les cartes disponibles, plus un qui est accessible sur certaines parties en bonus. Si vous avez immédiatement 6 symboles, vous gagnez la partie. Donc il y a eu un tournoi hier soir dans un café ludique parisien où les stats ont été 20% de victoire scientifique, 20% de victoire militaire et 60% de victoire au point, ce qui semble visiblement être l'attendu des auteurs. Donc vous avez à peu près les proportions des parties qui vont jusqu'au décompte final. La différence donc par rapport à Seven Wonders, c'est que le draft, au lieu d'être par échange de cartes, vous prenez une carte d'une main et vous passez à votre voisin, vous avez ici un certain nombre de cartes visibles ou cachées, et certaines sont bloquées jusqu'à ce que par le fait que vous activiez cette carte, elles deviennent visibles et actives. Donc c'est un mécanisme très malin où vous allez effectivement devoir réfléchir à prendre les cartes qui vous intéressent, mais également à ne pas libérer les cartes qui pourraient éventuellement intéresser votre adversaire. Vous pouvez casser votre mécanique de « je prends une carte, tu prends une carte » via certaines merveilles qui vont vous permettre de rejouer et donc de pouvoir modifier ce « je prends une carte, tu prends une carte » et ainsi d'influer réellement sur le cours de la partie. En tout cas, c'est voilà, je recommande vivement, c'est un beau succès et je pense que c'est un jeu avec un bel avenir.
Et puis il y avait d'autres jeux que tu avais testés, dont tu voulais nous parler. Il y avait Celestia et Prodigal's Club qui était un des jeux de... alors c'est pas Portal, c'est les autres.
Check Game Edition. Je vais commencer par Prodigals, j'en dire deux mots. Donc, tous les ans, Check Game Edition sort un ou deux jeux, parfois une extension. Donc, cette année, en sus de l'extension de Galaxy Trucker et de celle de Tash Kalar, vous aviez la réédition de Fruity Edges et donc de Prodigals Club. Donc, je vais m'attarder sur Prodigals Club, qui est un jeu de Vladimir Sushi. Qui est un auteur habituel de Check Game, au même titre que Javatin, qui a déjà fait 20e siècle et qui avait fait Last Will, qui présentait déjà un thème décalé. Et dans Prodigal's Club, vous allez être des gentlemen huppés de la haute société, richissimes, et vous avez trouvé que la vie de bohème des clochards détestée de tout le monde et finalement était bien. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de devenir le plus pauvre et de devenir le plus détesté.
Et excuse-moi, c'est un petit peu comme le jeu de Yellow où il faut donner plus de sous. Pardon ?
Last Will.
Last Will, où il faut dilapider sa fortune.
Oui, tout à fait. Last Will, c'est le jeu de Vladimir Sushi, qui a été édité et distribué en français par Yellow. Donc c'est le même auteur.
Mmh.
Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que vous pouvez combiner les deux jeux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre... en fait, dans Prodigal's Club, vous avez trois plateaux qui sont trois modes de jeu. Donc vous avez un qui consiste à perdre une élection, un qui consiste à être détesté de la haute société et le troisième à vous appauvrir. Et vous pouvez remplacer le plateau de richesse, entre guillemets, par la Swill. Donc il y a des règles qui vous permettent de combiner les deux jeux. Et vous allez utiliser les principes de la Swill pour gérer votre fortune. Et à la, ce qui est intéressant, c'est un jeu très classique de placement d'ouvriers. Donc c'est vraiment le thème qui est intéressant. Toutefois, il y a un mécanisme à la Knizia qui véritablement donne tout son sel. C'est que vous allez regarder, on vous conseille de prendre deux des trois plateaux, donc vous allez choisir les deux thèmes auxquels vous voulez jouer, et ensuite ce sera votre plus mauvais score qui sera pris en compte. Donc même si vous êtes très détesté, mais si vous êtes richissime, eh ben vous allez perdre. Donc ça c'est vous ne pouvez pas négliger une des catégories, vous devez vraiment travailler à perdre votre argent et à être détesté simultanément. Voilà, donc avec des principes d'achat de cartes pour avoir des actions supplémentaires, vous allez vous positionner aux différents endroits du plateau et vous allez mettre en place votre jeu en fonction des thèmes choisis. Vous n'aurez pas les mêmes cartes, donc ça permet d'avoir un bon renouvellement de partie. Donc un jeu très classique, mais voilà, intéressant par son thème, qui sortira bientôt chez Yellow en français.
Donc The Prodigal's Club, c'est un jeu de... j'ai peur de le dire, Vladimir Sushi, illustré par Thomas Kucherowski, en anglais actuellement indisponible chez Philibert. Alors là, c'est aussi quelque chose qui a un peu changé, c'est qu'on avait l'habitude de pouvoir avoir assez de stock, et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, 30 d'euros, et puis ça va être certainement chez Yellow dans quelques temps.
Oui, ils m'ont confirmé les checks que ce serait chez Yellow. Et puis, j'aimerais dire quand même deux mots de Celestia.
Oui, bien sûr.
Ah, Celestia, c'est un jeu de Blam. Alors, l'acronyme m'échappe, mais...
Between Lake and Mountains.
Oui.
Ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire entre le lac Annecy et la montagne.
Ça, j'avais compris.
Oh.
C'est une toute jeune maison d'édition. J'avais eu la chance de les rencontrer cet été à Paris Ludique, où ils présentaient donc en démo le jeu, en m'expliquant qu'ils y croyaient fort, avec un gros tirage, hein, puisque le premier tirage était prévu à 15 000 exemplaires. Donc vraiment une volonté de porter le jeu. C'est la réédition d'un vieux jeu qui s'appelle Cloud Nine, qui doit avoir une dizaine d'années. Et qui est véritablement très réussi. Il y a à la fois un travail qui a été fait sur le graphisme et également quelques ajustements de règles qui en font un jeu très moderne. C'est un jeu de stop ou encore, où vous allez en fait suivre un capitaine ou pas et l'aider ou pas à aller le plus loin possible. Et en fait, vous avez ce mécanisme qui consiste à, pour gagner plus, il faut aller le plus loin possible. Mais certains vont abandonner le navire en cours de route et s'il y en a trop qui abandonnent, le navire va se crasher et personne n'aura rien. Très très bon jeu familial, vraiment je le recommande et vraiment une très belle édition.
Ouais, j'avais pu l'essayer à Cannes, en fait, il l'avait déjà en démonstration au Festival International. Et j'étais agréablement emballé, le jeu est vraiment sympa. Un bon stop encore, il n'y a pas grand chose d'autre dans le mécanisme que ça, hormis après le système de récupération des cartes qui est enfin voilà. Mais ouais, c'est un excellent jeu.
Bon, oui, ça c'est un vieux jeu et à cette époque-là on faisait des jeux plus simples et plus épurés. Tu as acheté les Twimple?
Oui, bien évidemment. Alors après j'ai l'impression que au niveau d'équilibre, alors là faut être level 2 hein, pour faire le montage puisque le navire est en 3D, ce qui apporte beaucoup. Donc on est entre Colt Express et Prussian Explosion. Mais il y a par contre la notice IKEA qui est très instructive, et vous avez même des pièces en spare, si jamais vous en perdez, vous en abîmez. Par contre, les Twin Pulse dans le navire tiennent un petit peu moins bien que les pions
d'origine.
Mais par contre, c'est tellement plus sympa avec les Twin Pulse, à sa couleur. Et puis, voilà, puis il y a toujours le fun de trouver les trésors qui va avec. Mais ouais, les Twin Pulse, je les recommande en tout cas.
Et pour le montage, ils ont fait une vidéo qui est très bien sur leur site, d'ailleurs.
Ouais, globalement, il y a pas mal de visuels qui présentent le jeu qui sont assez réussis et vraiment qui donnent envie.
Ah bah, ouais. C'est magnifique. Hein.
Mais la seule remarque que je pourrais faire, moi, sur le jeu par rapport à Cloud9, c'est que je ne suis pas trop fan des cartes à effet particulier qui sont ajoutées au jeu. Mais à part ça, on aime beaucoup le jeu, quoi. Mais on enlève les cartes spéciales pour l'instant.
Je m'étais fait un peu la même réflexion à Cannes, je me demandais si c'était vraiment aussi bien que ça, ces cartes qu'ils ont rajoutées.
J'aurais tendance à dire que c'est un peu comme à Colt Express, vous allez être plus tactique à 3-4, et auquel cas il faut peut-être les enlever. Par contre, si vous passez à 5-6, de toute façon c'est chaotique, et j'ai comme de Colt Express, à limite plus il y a de chaos, plus on s'amuse.
Ouais, ça peut être une bonne approche, effectivement.
Plus il y a de chaos, et plus on s'amuse.
Alors Celestia, c'est un jeu de Aaron Weisblum, édité chez Blam, et c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs pour des durées de 30 minutes, et le jeu est disponible à 21,90€ chez Philibert. On peut également trouver les Twin Pulse chez Philibert à 12€.